Cette étude pour voir que oui, on est tous nés avec certains tempéraments et c'est pour ça qu'on a besoin de cette base pour comprendre de quoi on est en train de parler quand on parle de tempérament et de comprendre même quel genre de tempérament nous on a. Elles sont catégorisées en quatre choses et de voir que pour le monde, pour l'inconverti, oui, lui, il est plus ou moins esclave de son tempérament. Il n'a aucune raison de faire autre que ce qui est naturel pour lui. J'ai entendu encore cette semaine une personne dire oh, bah, de toute façon, je suis comme ça, on ne me changera plus maintenant. On l'entend ça assez souvent. Mais pour le chrétien, ça ne devrait jamais être la réalité. On a vu tous les côtés positifs de chaque tempérament. Tout le monde a un tempérament et tout le monde a un côté positif, des choses qui sont bonnes, qui sont utiles. Et tout le monde a également malheureusement des choses qui sont négatives par rapport à ses tempéraments. Et pour le chrétien, on a ces versets qui nous parlent d'avoir la plénitude de l'esprit, d'être rempli de l'esprit. On a vu que ce mot parlait spécifiquement, littéralement, la traduction de ce mot, c'est d'être contrôlé par l'esprit. Et c'est dans le même contexte où il parle, où il donne ce que Dieu appelle le fruit de l'esprit. Et on voit avec chaque tempérament, on était en train de voir avec les côtés négatifs de chaque tempérament, comme là, la dernière fois, on avait terminé avec le tempérament qui est appelé colérique. On ne va pas refaire qu'est-ce que c'est, mais dit le Saint-Esprit, il veut enlever toutes ces choses négatives et les remplacer par le fruit de l'esprit. Et pour le colérique, ce serait bien pour lui de se focaliser. On a tous besoin du fruit de l'esprit dans sa totalité. Il y a 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. Mais il y a des choses selon notre tempérament, qui ne seront plus faciles à faire que d'autres. J'ai parlé aujourd'hui avec quelqu'un, il me disait, ben justement, moi je trouve que le Seigneur m'a aidé à toujours avoir une facilité à pardonner. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est lié aussi au tempérament et à la soumission au Saint-Esprit. Et il a dit, par contre, il reconnaît, il y a d'autres endroits où il a beaucoup de difficultés à faire, alors que pour d'autres personnes, ce qui est difficile pour lui, c'est facile. Donc il a dit, pour le colérique, par rapport au fruit de l'esprit, il doit se focaliser par rapport à l'amour, la paix, la gentillesse, la patience, la douceur et la bonté, pour l'aider à contrecarrer ses défaillances ou ses côtés négatifs de son tempérament. Et là, on va passer donc au mélancolique. Et le docteur Alsby, on a fait référence à lui à plusieurs reprises, il donne une définition par rapport aux défauts spécifiquement du mélancolique. Bon, je vais le lire, mais comme c'est un docteur, si je vous le disais que c'est moi qui ai dit ça, vous devez dire, c'est un carré qui ne parle pas comme ça, toi. Non, c'est vrai. Il dit, il est certainement le plus égocentrique que n'importe quel autre tempérament. Bon, on a vu. Encore une fois, on a parlé des qualités, des côtés positifs du mélancolique, comme les autres. Il a des points extraordinaires, mais là, il donne une définition par rapport à strictement que les négatifs. C'est pour ça qu'il peut sembler un peu dur. Il est certainement le plus égocentrique que n'importe quel autre tempérament. Il est porté à cette forme d'introspection et d'autocontemplation qui paralyse sa volonté et son énergie. Il est toujours en train de disséquer son être et ses conditions mentales, enlevant couche après couche comme s'il pelait un oignon, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de direct et de naturel dans sa vie. Il ne reste que son éternelle introspection, toujours en train d'examiner à l'intérieur de lui. Cet examen de conscience n'est pas seulement regrettable, mais malheureusement, il lui est nuisible. Ils sont concernés non seulement par leur état spirituel, mais également soucieux de leurs conditions physiques, de leur apparence, de façon même excessive. Tout ce qui touche à mélancolique est pour lui de prime importance. Aussi, aucun autre type de tempérament ne devient aussi facilement un hypochondriaque. J'imagine que vous savez aussi bien que moi ce que c'est. La définition simple d'un hypochondriaque, c'est quelqu'un qui craint constamment d'être ou de devenir malade. Et parfois, il y a des cas extrêmes où ils disent il suffit d'entendre une maladie, puis ils pensent l'avoir. Mais le mélancolique, il est souvent porté à la méfiance. et à voir le mal partout où il se trouve. C'est qu'il s'y trouve ou pas. Si lui croit le voir, ça suffit. Le mal est là. Si deux personnes, par exemple, parlent à voix basse, ils vont conclure tout de suite qu'il est en train de parler de lui et en mal. Sinon, ils parleraient à voix haute, alors qu'ils étaient déjà en train de parler avant même qu'ils rentrent dans la pièce ou qu'ils passent par là. Mais le fait qu'ils entendent deux personnes parler à voix basse, peu importe les circonstances, automatiquement, ils parlent de moi et en mal. On peut comprendre que ce type de raisonnement peut conduire dans des cas graves, ce que les médecins vont appeler le complexe de persécution. On m'en veut toujours à moi. Les personnes parlent le mal de moi. Celui-là, il me regarde, mais il me regarde de façon agressive, alors que tout ce qu'il a fait, c'est tourner la tête pour voir, parce qu'il a entendu un bruit. Mais ça fait partie de comment il perçoit les choses. Et en raison, on avait dit, l'une des qualités positives hein, du mélancolique, c'est qu'il est, c'est un perfectionniste et également quelqu'un qui est très analytique. Il aime analyser les choses. Mais malheureusement, quand on prend ça dans le contexte négatif, ça va le rendre avoir une tendance à être pessimiste. Parce que quelqu'un qui est perfectionniste et qui analyse, mais voit le mal partout, ben, il ne va pas analyser pour voir ce qui est bien. Il va pas voir le perfectionnisme et voir qu'est-ce qui va bien. Le perfectionnisme, il voit qu'est-ce qui va mal. Pour que ça puisse être parfait. Sinon, c'est pour ça qu'il est perfectionniste. Il voit qu'est-ce qui va pas. C'est pas exactement parfait pour que ça le devienne. Et donc, pour le mélancolique, quand tu ajoutes cela avec sa tendance à voir le mal partout, ben, il n'est pas étonnant que c'est un esprit régulièrement pessimiste. Hein, on peut voir, lui-même, il peut voir la fin ultime d'un projet, mais ce qui est encore plus réel pour lui est qu'il est persuadé que le résultat final ne sera pas aussi bon que prévu. Avant qu'il ne termine, il dit, je vais le faire, je vais le terminer, je vais pouvoir le terminer, mais ce ne sera pas aussi bien que je le voudrais. Et comme il a déjà été déçu dans le passé, il dit, je sais que ça va être pareil encore maintenant. Pourquoi est-ce que ça changerait? Et remarquez que pour le mélancolique, ce n'est pas juste des pensées qu'il a. Il en est persuadé. Pour lui, c'est déjà un fait établi. Et une personne qui vient lui dire autrement, ben c'est lui qui a tort, qui ne comprend pas sa situation. Alors que ce ne sont que des pensées de quelque chose qui est à venir, du résultat sur lequel il travaille. Mais non, ça sera bien, tu verras. Ah ben non, tu comprends pas, tu verras, ça va être pas comme je veux. Et le mélancolique, c'est une personne qui est généralement extrêmement exigeante, surtout dans ce qu'il attend des autres. C'est ce qui le rend très critique, quand il estime que l'autre n'a pas fait de son mieux, parce que lui, il est exigeant, il est perfectionniste, il analyse, etc. Alors que même s'il est persuadé que le résultat ne sera pas comme il veut, il sait qu'il se donne à fond quand même. Il dit, mais c'est ça le pessimisme. Il dit, je me donne à fond, mais ce ne sera pas assez. Alors s'il voit que la personne qui veut l'aider, lui, ne fait pas de son mieux, ben, il est extrêmement critique de cette personne. Et personne n'éprouve de plus grand changement d'humeur que le mélancolique. Ça, encore une fois, quand on parle de toutes ces caractéristiques, hein, de ces tempéraments, on est en train de parler de comment elles sont. Quand elles ne sont pas contrôlées, quand il n'y a pas l'influence du Saint-Esprit, c'est pour l'inconverti, ça c'est les réalités. Pour le chrétien, c'est une toute autre chose. Même le chrétien doit comprendre, si c'est un chrétien qui est mélancolique, il doit comprendre que ces choses sont là pour laisser le Seigneur l'aider à travailler ses besoins. Parce que même le chrétien, quand le mélancolique ne se laisse pas stimuler par le Saint-Esprit, peut devenir très morose, déprimé, ou peut traverser une très grande période de désespoir, alors qu'il est sauvé. C'est un chrétien, il est né de nouveau, il a le Saint-Esprit, mais il peut passer par ces moments parce que il n'est pas en train de se laisser justement contrôler, influencer par le Saint-Esprit. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il se focalise sur le moi. Et c'est pour cette raison principale que on avait parlé au tout début à Hippocrate qui a donné ce tempérament, celui de l'humeur noire. Il peut se retrouvé dans un cercle vicieux, et à cause du fait qu'il passe par une période sombre, ses amis peuvent l'éviter parce qu'il dit bah, là, il passe par un mauvais moment, on le laisse tranquille. Donc, il s'invite les uns les autres, mais pas lui. Et sa nature sensible, du mélancolique, il va le remarquer, il va être offensé, et il va tomber encore plus dans la dépression. Et il est tellement déçu du présent qu'il passe beaucoup de temps à penser au passé aussi. Un passé qui devient de plus en plus agréable au fur et à mesure que le temps passe. Et lorsqu'il se fatigue de penser au passé, ben il rêve d'un avenir souvent plutôt utopique, non réalisable. Non seulement il paralyse sa volonté et son énergie, mais il peut le conduire souvent à la schizophrénie même. Et parce qu'il n'arrête pas de faire le va-et-vient entre la réalité, le passé, un futur non réalisable et le présent, etc. L'une des illustrations les plus marquantes de la puissance de l'évangile, justement, c'est de voir un mélancolique, morose et déprimé, qui se laisse transformer par la grâce de Dieu et voir cette nouvelle vie en lui le changer en quelqu'un de joyeux et d'optimiste. C'est toute la raison, bah pas toute, c'est l'une des raisons qu'on a mentionnées, hein, cette étude, que la différence entre les inconvertis et le croyant, c'est que le chrétien n'est pas esclave de son tempérament. Et que justement, quand quelqu'un est mélancolique, il a été connu pour cela par ses amis, puis il reçoit l'évangile, il est sauvé, puis il commence à grandir dans sa foi et dans sa vie chrétienne, il voit ce changement radical. Dit, mais qu'est-ce qui s'est passé de ce gars morose et déprimé qui maintenant est joyeux et optimiste? Il voit la vie autrement, mais qu'est-ce, ben, il peut donner son témoignage. Ce n'est pas moi, c'est Christ. Ce n'est pas moi, c'est. J'ai reçu quelque chose de fabuleux, laisse-moi t'en parler. Une autre caractéristique du tempérament mélancolique, c'est sa tendance à la vengeance, hein, du fait qu'il lui est très difficile de pardonner. Et il pense souvent que bah, s'il peut rendre l'appareil, que ça lui donnera une certaine paix. Et même s'il sait qu'en lui-même, c'est une paix extrêmement passagère et une paix qui rajoutera des regrets avec derrière. Mais bien qu'il paraisse extérieurement calme et tranquille, bien souvent de la haine et de l'animosité bouillonnent à l'intérieur. Du personne qui est mélancolique. Et son esprit vengeur et sa colère ne vont pas toujours éclater au grand jour. Ça tout dépend de la maîtrise qu'il a. Mais il gardera rancune quand même bien trop longtemps et terminera toujours à se manifester généralement par une perte complète de contrôle sur lui-même. S'il arrive à le faire ou il est chez lui tout seul, c'est une chose. S'il est en public, ben, c'en est une autre. Mais maintenant que nous avons vu les qualités et les défauts du tempérament spécifiquement mélancolique, un fait intéressant devrait quand même attirer notre attention spécifiquement à celui-là. Le tempérament ayant le meilleur potentiel et des plus grandes qualités, c'est ce qu'on avait donné les côtés positifs du mélancolique, c'était ce qu'on avait dit, mais il est également accompagné de ce qui apparaît comme le plus grand potentiel de défaut. Et c'est à mon avis, ce n'est pas un hasard. Et rares seront ceux qui pourront être jugés comme étant un mélancolique moyen. C'est vraiment, on va d'un côté, on utilise tous les côtés positifs du mélancolisme, pour ainsi dire, ou on tombe vraiment dans une majorité des côtés négatifs. Et le mélancolique moyen, c'est extrêmement rare. Le mélancolique utilisera ses qualités jusqu'à une position dominante par rapport à celle des autres, ou bien il sera dominé par ses défauts et s'enfoncera de plus en plus en se disant qu'il ne peut rien y changer. Les mélancoliques devraient tirer une grande consolation quand même du fait que la foi, on parlait du fruit de l'esprit, que la foi en Christ soulève une personne au-delà de son propre tempérament. C'est ça notre espoir. Dieu n'a jamais demandé à ce que nous puissions vaincre nos problèmes, nos défauts, nos péchés ou quoi que ce soit par nos propres moyens, par nos propres forces. Il n'a jamais demandé ça. Il a toujours dit, Laissez-moi, c'est moi le bon berger, ce n'est pas la brebis qui doit trouver la solution, la brebis, elle doit écouter et suivre. Et dit, mais tant que vous n'êtes pas ma brebis, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. La meilleure chose que je peux faire pour vous, c'est de vous offrir le salut pour que vous puissiez devenir ma brebis. Mais la grande consolation pour le chrétien qui est du tempérament mélancolique, c'est que Christ est plus que suffisant pour nous élever au-dessus de tous nos défauts et de commencer à produire le fruit de l'esprit. Et le mélancolique pourra se focaliser sur ceux de l'amour, de la joie, de la paix, de la bonté, de la foi et de la maîtrise de soi en priorité. Et parce que ce ne sera pas étonnant que ce soit cela, ces caractéristiques du fruit de l'esprit, que le Saint-Esprit va se focaliser pour l'aider à montrer que l'amour, ce n'est pas de se focaliser sur soi, mais l'amour, de par définition, se doit d'être donné aux autres. De la joie malgré les circonstances, la paix malgré les circonstances, la bonté envers les autres et pas juste la bonté envers moi, la foi de ce que c'est Dieu qui puisse faire la différence, et bien, la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui revient pour chaque tempérament de toute façon. Bon, ça c'est pour le mélancolique. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport au mélancolique avant qu'on regarde le quatrième et dernier tempérament? D'accord. J'avais dit la semaine dernière que je mentionnerai mon tempérament, hein, c'est celui primordialement celui du flegmatique. Donc on va voir tous mes défauts maintenant. mais bon, on pourra en dire plus, hein, croyez-moi. Mais pour faire simple, le défaut principal du flegmatique, c'est d'être lent et paresseux. Il donne souvent l'impression de traîner les pieds, surtout s'il est poussé à agir pour faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Et on voit cela dès la jeunesse, hein. Ce n'est pas quelque chose qui se remarque une fois qu'il est adulte. Et ce n'est pas que les flegmatiques, hein. Demandez à n'importe quel parent combien de fois les enfants ont traîné les pieds quand ils leur ont dit d'aller ranger la chambre. Ce n'est pas que les flegmatiques qui ont traîné les pieds. Donc n'utilisez pas ce seul critère pour dire, ah ben lui, il est flegmatique. Non, c'est un peu partout. Mais chez le flegmatique, cette volonté de ne me pousse pas devient quand même un trait plus marquant. Et son manque de motivation, ben, va souvent le pousser à faire le minimum. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie de terminer le projet, mais est-ce que je peux faire le projet avec le moins d'efforts possible? Il pourra faire du bon travail, mais ne demandez pas à ce qu'il fasse plus que le nécessaire. Là, j'aurais pu faire une autre image, mais ce n'était pas nécessaire. L'activité, il est possible que l'activité du colérique et l'agitation du sanguin peuvent l'embêter. Parce qu'il les voit courir partout, il dit, c'est bon comme ça, laisse. Et parce qu'il, mais ce n'est pas juste à cause de ça. Mais le plus qu'il les voit bouger et travailler, il a peur qu'ils vont venir lui demander son aide. Il dit, non, tu le fais très bien, vas-y. Mais à cause de son sens aigu également de l'humour, hein, qu'on avait parlé les autres fois, et de sa capacité à être un observateur neutre, il sera facile pour lui d'utiliser son esprit pour taquiner ceux qui l'ennuient et menacent de le faire travailler. Ce sera un peu son arme pour dévier un peu, les faire oublier que tu allais me demander d'aider à travailler, je te taquine un peu. Docteur Halsby dit de lui par rapport à cela que s'il en décide ainsi, le flegmatique peut utiliser son humour et son esprit pour exciter et mettre les autres en colère, tandis que lui-même ne perd jamais son calme et son sang-froid. Et ça, c'est plus de l'humour pour faire rire et pour s'amuser, c'est comme il vient de le dire, c'est pour l'utiliser d'une manière négative. Le flegmatique manifeste souvent de l'égoïsme, et ce défaut devient plus apparent au long des années, parce qu'il apprend à se protéger lui-même. Au début, il le garderait pour lui-même. Et avec le temps, avec les années, hein, de moins en moins. Et souvent, il s'oppose avec entêtement à tout changement, un changement parce que automatiquement, tout changement demande un effort. C'est toujours plus facile de laisser les choses telles qu'elles sont. Alors, souvent, le flegmatique va être contre tout changement, surtout les grands changements. Mais à mesure qu'il mûrit, il apprend souvent à cacher son entêtement par sa bonne humeur nonchalante. Alors, il devient de plus en plus têtu. Les premières questions qu'il se pose sont souvent: combien ça va me coûter? Et surtout, combien de temps est-ce que ça va me prendre? Et est-ce que ça va m'empêcher d'avoir ma sieste? Et bien que l'égoïsme soit un défaut fondamental des quatre tempéraments, l'égoïsme, elle est revenue, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle est revenue dans chaque tempérament. Mais c'est un défaut qui influence le phlegmatique de façon bien particulière, plus forte que les autres. Avec les années, le phlegmatique devient de plus en plus indécis également. Le fait qu'il ne veuille pas s'engager fait en sorte que les autres sont souvent plus rapides à proposer des projets que lui. Il aurait peut-être une bonne idée, mais il dit, oh, il attend pour voir si quelqu'un en a une autre. Et si quelqu'un en a une autre, ben, ça ne le dérange pas. Et au lieu de dire, j'ai une bonne idée, je sais que c'est une bonne idée, je vais le dire, non, il reste indécis. Et bien qu'il puisse analyser une situation et trouver une méthode pratique pour réaliser un projet, il met souvent en balance sa méthode et son désir de ne pas s'engager. J'ai une bonne méthode, mais est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire? Il hésite donc entre son désir de faire quelque chose et celui de vouloir en payer le prix. Et lui aussi, hein, donc le fruit de l'esprit, ce qu'il a besoin de se focaliser, encore une fois, c'est l'amour, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi et la foi. Que ça n'a pas à voir, hein, l'égoïsme, ça revient toujours, ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec Dieu. Est-ce que comment Dieu veut t'utiliser pour les autres? Alors, pour résumer, ceci, ben, termine notre coup d'œil rapide des défauts, des fondamentaux des quatre tempéraments. Et j'espère que personne n'a été découragé par ce qu'ils ont vu, parce qu'on a fait ce test il y a quelques semaines pour connaître, si on ne le savait pas déjà, quel genre de tempérament on était. Et c'était bien qu'on a vu tous les côtés positifs de chaque tempérament, mais là, on a vu les côtés négatifs. Alors j'espère que personne n'est trop déçu. Le docteur, une fois de plus, le docteur Asby résume de la façon suivante les défauts des quatre tempéraments, mais spécifiquement dans leurs relations les uns avec les autres. Le sanguin aime les gens et puis les oublie. Non, mais non, c'est pas vrai. Oui. Le mélancolique est agacé par les gens, mais les laisse suivre leur voie douteuse. Le colérique profite des autres pour ses propres intérêts et ensuite les ignore. Le flegmatique étudie les gens avec une indifférence hautaine. C'est pas beau, hein? Mais c'est le tempérament que nous avons si on ne laisse pas le Saint-Esprit travailler dans notre cœur, dans notre vie. Regardez le monde. Je suis désolé, le monde est un monde égoïste. Le bien qu'ils font est un bien égoïste aussi, parce qu'ils peuvent en tirer quelque chose eux-mêmes, une satisfaction personnelle, un autre, alors que la Bible nous apprend de tout faire par amour pour Dieu. Et notre amour pour lui nous aide à avoir un amour pour notre prochain, pas un amour qui est centré sur le moi, sur le nous. Peu importe qui nous sommes, et donc peu importe notre tempérament, ce n'est pas une très belle image que nous avons, mais on n'est pas esclave de notre tempérament. Et alors, un tempérament, quel qu'il soit, contrôlé par le Saint-Esprit, est une toute autre histoire de ce que nous venons d'entendre et de lire. Mais il nous faut voir notre tempérament de base pour ce qu'il est, avant de voir comment le Seigneur veut et peut le changer. On ne répare pas quelque chose qui n'est pas cassé, n'est-ce pas? C'est ce que on a même ce dicton français, s'il n'est pas cassé, laisse-le. Mais les circonstances, hein, ne devraient jamais déterminer nos actions. Le Saint-Esprit devrait, la parole de Dieu devrait, Dieu, sa volonté, les vérités que Dieu nous enseigne devraient déterminer nos actions. Pas mes circonstances, même pas mon tempérament. Laissez-moi terminer avec cette illustration. C'est une femme de pasteur qui a vécu cela, qui l'a relaté à son mari. Et elle était assise à l'arrière d'un autobus de la ville. Et le bus s'arrêta pour prendre un passager. Et donc le bus s'arrête, il fut stoppé, mais beaucoup plus longtemps que d'habitude. Bon, les gens, ils disent, ben, ils savent, un bus, ça, ils stoppent pour laisser rentrer un passager. Ils s'attendent quelques secondes et c'est bon. Mais ça prenait du temps et du temps. Et cette femme pouvait voir plusieurs passagers qui s'irritaient. Et on peut imaginer, tendez le cou pour voir, mais pourquoi, qui est-ce qui est en train de monter, pourquoi ça prend du temps, et qu'est-ce qui les a empêchés de repartir. Et finalement, au moment où certains tempéraments s'apprêtaient peut-être à exploser, une dame âgée et également handicapée apparut, paya son billet, puis prit un siège lentement, laborieusement. Quand elle fut enfin assise, elle se retourna et avec le plus grand des sourires, les plus désarmants, sur le beau visage d'une sanguine qu'elle devait être, elle s'écria d'une voix forte et joyeuse, merci beaucoup de m'avoir attendu, veuillez m'excuser de vous avoir retardé quelque peu. La femme, au fond du bus, la femme du pasteur, fut stupéfaite de voir le changement d'attitude de tous les passagers, y compris ceux qui étaient semblaient être les plus grognons qui s'apprêtaient à dire ce qu'ils pensaient. Et ils étaient forcés de répondre avec un sourire de salutation joyeuse à la femme sanguine. Le bus avait à peine parcouru 3 km qu'à nouveau il fut arrêté un bon moment. Et croyez-le ou non, une autre dame handicapée monta dans le bus, s'assit sur le siège en face de celui de la sanguine. À cette distance, la femme du pasteur au fond du bus ne pouvait pas distinguer si cette nouvelle passagère était colérique ou mélancolique. Elle ne pouvait que constater que cette dame n'avait ni rayonnement, ni sourire, ni joie, que des rides d'amertume, de ressentiment et de détresse profondément creusées dans son visage. Et au moment où cette deuxième dame s'assit, la sanguine, celle qui avait retardé le bus la première fois, elle se mit au travail. Elle le saluait de son plus gai sourire, puis se mit à rire et à plaisanter avec sa voisine si triste. Dans l'espace de quelques minutes, elle amena sa compagne à offrir un sourire que les autres passagers peut-être auraient cru impossible de voir avant. Alors, nous pourrions utiliser cette histoire, hein, pour parler beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais on va juste rappeler cela. Les circonstances ne doivent pas nécessairement déterminer nos actions. Nos qualités, tout comme nos défauts, ne dominent pas sur nous. Et elles ne dominent pas les choix que nous devons faire. Elles influencent. Il serait irraisonnable de dire que nos tempéraments et même les circonstances n'influencent pas comment on veut agir ou réagir. Mais elles ne devraient pas être plus fortes et plus puissantes que l'influence que nous avons dans la personne du Saint-Esprit. Je lisais encore cet après-midi, ou dans le livre des Actes, où Christ disait et enseignait aux disciples, je vais vous envoyer pas seulement le Saint-Esprit, mais une puissance. Une puissance. Cette puissance, il nous le donne après le salut, mais il nous aide à pouvoir vivre d'une vie victorieuse, d'une vie agréable pour le Seigneur, et en même temps qui nous apporte une vie qui nous remplira de joie, de paix. Ça ne veut pas dire que tout sera toujours facile, mais que justement, malgré les circonstances, et malgré mon tempérament et les défauts qui viennent avec, que le Seigneur peut m'aider à avoir une vie abondante dans le Seigneur. Il est certain que tous les sanguins handicapés ne sont pas joyeux, comme cette dame, et que tous les mélancoliques infirmes ne sont pas moroses, comme la deuxième dame, mais les chrétiens peuvent surmonter leurs défauts naturels et mettre en valeur les qualités innées grâce au travail du Saint-Esprit dans leur vie. Alors, Dieu voulant, on verra la semaine prochaine, hein, plus de passages bibliques pour nous aider justement. On va parler plus en détail du fruit de l'Esprit, prendre chaque caractéristique de ce fruit de l'Esprit, pour ensuite voir, Dieu voulant, qu'est-ce que Dieu veut dire et implique par rapport à être rempli, contrôlé par l'Esprit. Et on aura certaines autres choses qu'on verra ensemble. Mais est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à ce qu'on a vu, seulement ces deux tempéraments ce soir? Maintenant, vous avez vu mes défauts, alors ne me jugez pas trop sévèrement. Je suis une œuvre en, comment dire, en travail, oui. En,